14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard. On commence, comme tous les jours, par son billet d'humeur.
Ça va vous paraître idiot, mais je me suis toujours demandé à quoi ressemblait la maison, l'intérieur d'un auteur qui vend des millions de livres. Il n'en parle jamais, c'est vrai. On a tous vu dans Gala ou Paris Match les dorures des demeures d'exception de Céline Dion ou de Michel Sardou, mais un grand écrivain, c'est comment chez lui? C'est vrai, c'est comment chez Bernard Werber?
Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants.
La chaîne IFI diffuse sa chanson culte. Les basses font vibrer les murs de la grande maison au cœur de la verdure. Dans les étagères, Edgar Allan Poe, de vieux San Antonio, se mêlent aux ouvrages scientifiques, souvenirs de son passé de journaliste spécialisé. Quelques photos, je suppose, viennent tout de même égayer les reliures aux couleurs foncées. Bernard Werber doit être très attaché aux photos. C'est vrai, n'ayant aucune mémoire, elle lui rappelle son histoire et ses pages qui se tournent. Sur les clichés, on découvre les parents de l'intéressé debout fièrement posant devant la plaque d'une rue, est écrit distinctement « Rue de la Pomme ». Ils y tenaient à l'époque un petit commerce de vêtements. Bernard l'aurait presque oublié. Dans l'entrée, dans cet antre que j'essaie comme ça d'imaginer devant vous, je devine une trace au sol, souvenir d'un ancien piano évacué en urgence. L'écrivain déteste cet instrument et pourtant, durant 6 ans, par amour pour sa maman, il dut s'atteler à apprendre les gammes. Peut-être ont-elles le mérite de lui avoir enseigné la musicalité de l'écriture. Par acquis de conscience, je suppose donc qu'il doit garder quelques partitions de Chopin au grenier. Par la fenêtre, dans cette maison que je ne connais pas, on doit apercevoir un jeune olivier fraîchement planté et un chat assis sagement, observant ses branches. Il s'appelle Domino, je crois. Reste à visiter le bureau de l'écrivain. Au mur, on dirait comme des dessins, des schémas, des diagrammes géométriques. Avant d'écrire ses livres, à la lueur des bougies, Bernard les dessine, écrit avec application cette équation du succès que lui seul connaît. Le téléphone doit souvent sonner chez Bernard Werber, peut-être son ami Boris Cyrulnik ou peut-être son attaché de presse qui lui rappelle qu'il est 14h30 et qu'il est attendu sur Europe 1 pour un rendez-vous avec quelqu'un qui peut-être le devine bien. C'est ce qu'on va voir maintenant sur Europe 1. Le bonheur selon Bernard Werber, merci d'être fidèle à Europe 1.
Europe 1. 14h30, 15h30, ici c'était ça le bonheur. Faustine Bollard.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Julia.
Bonjour Faustine.
Et bonjour Bernard Werber.
Oh.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me suis posé la question toute la matinée, est-ce que ça ressemble à ça chez vous?
Alors, il y a une petite erreur, c'est qu'il y a un piano, ensuite c'est pas une grande maison, c'est une toute petite maison. Il y a un chat en effet qui court partout et il y a de la musique en effet. Non, il y a beaucoup d'éléments qui... je ne travaille pas non plus à la lueur des bougies.
Ah,
en fait, je travaille que le matin, donc, et je travaille au café. Parce que j'ai besoin de voir des êtres humains pour écrire, mais c'est une toute petite maison et c'est vrai que j'ai planté un olivier depuis quelques temps. C'était une phrase que j'avais lue dans un conte indien qui disait que pour une vie soit complète, il faut une œuvre, une histoire d'amour, élever un enfant et planter un arbre. Voilà, donc j'avais envie de planter cet olivier.
On va y revenir en tout cas. C'est comme ça que moi j'imaginais humblement votre maison. Mais vous allez peut-être évidemment nous en parler tout au long de cette émission. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Je vous accueille d'ici une minute. Le temps pour moi d'inviter nos auditeurs à nous contacter. Écrivains à succès en France mais également à travers le monde, venez nous dire pourquoi vous êtes tant attaché au livre de Bernard Werber. Lequel avez-vous préféré? Le miroir de Cassandre, l'avant-dernier. Nos amis les humains, vous l'avez peut-être vu au théâtre. Les fourmis bien sûr. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces ouvrages? Vous a-t-il accompagné avec ses livres dans certaines périodes de votre vie? Venez nous dire ce que vous avez pensé de son dernier ouvrage, paru il y a presque un mois, Le Rire du Cyclope, si vous avez déjà eu occasion de le lire. Cette émission est comme tous les jours la vôtre. On attend vos témoignages au 3921, mais également par mail et par SMS, Julia.
Exactement, pour les courriels faustine.europe1.fr et par les SMS, le mot-clé bonheur. Votre message court signé, envoyé au 72121.
Dans une minute sur Europe 1, on se retrouve avec Bernard Werber.
Jusqu'à 15h30. Et si c'était ça le bonheur? Sur Europe 1.
Bernard Werber est donc mon invité pour cette spéciale grande recette du bonheur. Bernard, vous avez donc publié il y a quelques semaines Le rire du cyclope aux éditions Albin Michel. Alors on reçoit beaucoup de livres qui décortiquent l'humour sous toutes ses formes à la rédaction. En général, je trouve que c'est un exercice difficile pour ne pas dire casse-gueule. C'est périlleux de parler du rire.
En tout cas, si c'est casse-gueule, ça vaut le coup de prendre le risque. Mais là, moi, j'ai utilisé une technique un peu bizarre, c'est que j'ai pris un polar. C'est-à-dire, c'est une enquête de mes deux personnages de référence, qui sont Isidore et Lucrèce. Et l'histoire démarre sur un grand comique qui meurt de rire. Et la question, c'est peut-on mourir de rire? Et à partir de cette enquête, ils vont être amenés à découvrir plein d'endroits extraordinaires et une société secrète qui, depuis la nuit des temps, informe et nourrit les grands humoristes du monde entier. Et mon idée, c'était ça, cette société secrète. Donc, je suis pas du tout dans une analyse philosophique, je suis pas non plus dans un recueil de blagues, c'est plutôt dans une histoire à suspense.
Non, mais on revient quand même aux origines du rire, voilà. Vous essayez de comprendre un petit peu presque la mythologie de l'humour, on pourrait dire.
Alors,
ça comme ça.
Ce qui était intéressant, c'était que pour écrire le roman, je me suis aperçu qu'il fallait que je comprenne pourquoi on rit et quand c'est que le rire a commencé. Alors, j'ai imaginé ça a commencé à la préhistoire, mais j'ai retrouvé les vraies premières blagues qui sont authentifiées en tant que telles, qui sont des blagues sumériennes datant de 3500 ans. Et après, j'ai essayé de voir comment, à travers les siècles, les humoristes se sont passés un peu comme la patate chaude, le devoir de faire rire leur prochain et le devoir d'utiliser l'humour comme un moyen de répandre la démocratie et de lutter contre les tyrans. On va dire ça comme ça. Et c'est un combat terrible et difficile. Et ça m'amusait en parallèle de l'enquête qui est une enquête noire, de mettre ce chemin de lumière qui est la trajectoire de tous les humoristes à travers le temps.
Alors, vous l'avez dit, c'était donc un polar autour du thème du livre. C'est pas fait pour rire, c'est un polar autour du thème.
J'espère qu'on rigolera quand même beaucoup.
On rigole, nous, aujourd'hui, on va le faire, mais dans votre livre, on sourit aussi. Mais il y a quand même, puisque vous parlez de l'adjectif noir, le personnage principal, Darius, le fameux cyclope, lui est un personnage très vil, très cynique, très sombre. C'est l'image que vous vous faites des comiques dans la vie?
Pas de tous les comiques, il y a autant de gens bien dans toutes les professions et de gens noirs, si ce n'est que quand on élève quelqu'un à un niveau tel qu'il est, comme mon héros le cyclope, le français le plus aimé des français, et aussi
le plus grand comique de France,
à la tête d'une fortune colossale, il est normal que ça lui monte un peu à la tête, et qu'il se mette à prendre de la cocaïne, qu'il se mette à avoir des délires mégalomanes, et c'est ce même personnage qui paraît extrêmement sympathique dans les médias, qui dans sa vie privée est violent, et en même temps est complètement égocentrique. Et je voulais montrer le fait que c'est pas parce que quelqu'un vous fait rire, que dans sa vie privée, c'est quelqu'un qui a forcément tout le temps, qui est tout le temps en train de présenter. Et j'ai fréquenté beaucoup de comiques, je me suis aperçu que la plupart étaient des gens très inquiets, très angoissés et qui n'étaient pas du tout drôles dans leur vie privée, parce que faire rire c'est un métier.
C'est une défense.
Et c'est une défense. Et c'est souvent une compensation d'une forte blessure. Et donc quand vous les rencontrez à leur vie privée, souvent les humoristes vous parlent de leurs blessures. Et dès qu'ils passent à la télévision, vous voyez l'effet résilience. Des gens comme De Funès ou Fernand Reynaud étaient des gens extrêmement durs. Et autant ils font rire à l'écran, autant il faut imaginer que c'était des gens, des tyrans domestiques.
Comment ils réagissent, vos amis humoristes, quand ils découvrent que vous avez dépeint votre héros de cette manière?
D'abord, j'ai utilisé beaucoup de leurs récits pour raconter la vie des humoristes. On ne se rend pas compte.
Il y a des choses vraies, hein, notamment les gardes du corps de ce fameux Darius, qui sont des personnages très violents.
Oui, mais on ne se rend pas compte. Ce qu'on voit à la télévision, les comiques, c'est l'aristocratie. C'est une dizaine de comiques qui sont riches, reconnus, heureux. En dessous, il y a une sorte de bourgeoisie, qui sont les comiques qui arrivent à survivre dans leur métier. Et en dessous, il y a une sorte de plèbes qui sont 15 000, vous savez, tous ces petits comiques, une dizaine de milliers de comiques, qui font tout pour essayer de vivre, de survivre, de surnager, qui se retrouvent dans des salles où il y a juste 10 personnes et qui doivent malgré tout arriver à rester survivants dans ce métier terrible. Et ensuite, il y a cette guéguerre qui se livre entre eux pour se piquer les gags, pour se piquer le public, pour avoir accès aux grands médias. Et je voulais montrer, voilà, les coulisses du rire. Ça a l'air un métier ultra ultra facile et ultra simple. Et en fait, non, c'est une industrie avec des gens qui ont des motivations extrêmement fortes, extrêmement dures.
Avec un vrai respect pour cette profession?
Énormément. Je crois que quand un humoriste monte sur une scène et qu'il se dit, bon, ben maintenant, faut que j'arrive à les faire rire, sinon c'est foutu, il doit avoir une peur terrible. Et j'ai raconté une anecdote qui s'est réellement passée dans Le Rire du Cyclope. C'est le comique Richard Reuben, qui est un comique belge, qui s'est retrouvé dans une salle avec 400 personnes qui, dès le début, ne rit pas. Et durant la fin du premier sketch, quand on passe au deuxième sketch, il ne rit pas non plus. Et pendant 2 heures, ils ne vont pas rire. Et il m'a dit, j'ai cru que je mourrais. Je me sentais liquéfié, détruit de l'intérieur. 2 heures de spectacle dans lequel personne ne rit. Et à la fin, il a fini par apprendre, c'était une émission de télévision de type Candide Caméra, et tous les gens dans la salle étaient payés pour ne pas rire. Mais ce qu'il a vécu était horrible.
Quelle violence.
Ce qui montre bien que le monde des comiques peut être un monde terrible. Et la plupart des comiques m'ont raconté aussi comment ils se faisaient récupérer par le système financier, donc ils sont comme des chevaux d'écurie, et d'une écurie à l'autre, ils se vendent leurs comiques et ils les récupèrent, et ils se vendent leurs gagman. C'est toute une industrie. Nous assistons actuellement au passage du stade artisanal au stade industriel.
Alors justement, cette industrie de l'amour, cette dictature de la vanne, on va y revenir tous ensemble avec Bernard Werber. Si vous voulez parler à Bernard, justement, lui envoyer des messages comme vous êtes déjà en train de le faire sur europe1.fr, vous nous appelez également au 3921. On est en direct, à tout de suite sur Europe 1.
Et si c'était ça le bonheur?
Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1.
Il est l'auteur de la fameuse trilogie des fourmis au début des années 90, mais aussi du cycle des dieux, traduit en 35 langues dans le monde entier. Bernard Werber compte parmi les plus grands auteurs contemporains. Il nous fait le plaisir de nous accompagner pendant une heure. Bernard Werber, donc, qui signe Le Rire du Cyclope chez Albin Michel. Et puisqu'on parlait de rire, justement, je voulais vous passer un extrait qui va certainement vous faire réagir.
Cher beau gosse 69, c'est top modèle 93. Est-ce que tu es en ligne? Smiley d'interrogation.
Hello, it is Bogus 69. How do you do?
Yes, it is. Why not?
I am in the kitchen with Mr. and Mrs. Smith.
Je préfère qu'on s'écrive en français si ça te dérange pas.
Ouais, bébé, t'as eu mon message. Comment c'est trop stylé. Je suis en ligne avec lui. J'ai fait croire que j'étais mannequin. Vas-y, donne-moi des conseils. Ne te trompe pas. Comment ça se voit trop que tu t'y connais en mec? J'aimerais trop avoir 15 ans et demi comme toi.
Extrait du dernier spectacle d'Elise Moon, Merki. Et alors, je crois que c'est un humoriste que vous aimez, qui fait partie des gens que vous aimez bien.
Je trouve fantastique. Et justement, c'est très très bien écrit. Et en même temps, c'est bien interprété parce qu'il arrive à faire plusieurs personnages avec des changements de ton. Je suis souvent branché dans ma voiture sur une chaîne qui passe des sketchs en permanence. Et quand il passe, je rigole tout seul dans les feux rouges. Et je trouve ça... ça fait du bien.
Ça fait du bien. C'est facile de vous faire rire. Vous êtes plutôt un bon client?
Oui, c'est facile de me faire rire, sauf quand les gens disent « j'en connais une bien bonne », qui est la phrase qui me coupe tout. Et la deuxième chose, c'est les gens qui rigolent en même temps, qui racontent leurs blagues. Alors ça me coupe tout.
Ah,
c'est-à-dire, c'est comme
oui,
s'ils plaçaient la barre très haut, style « si tu ne rigoles pas, ça veut dire vraiment que je vais être vexé ». Donc j'aime pas qu'on mette la pression, j'aime bien qu'on me laisse libre. Et ensuite, j'aime bien être surpris. Je crois que tout est dans l'art de surprendre la chute.
Et vous, est-ce que vous êtes quelqu'un de drôle?
Je
ne vous demanderai pas de raconter des blagues.
C'est
mais
pas moi qui peux le dire. Je suis d'un naturel détendu et ouvert. Maintenant, j'aime pas me donner en spectacle. Je vais pas à la fin des repas vous dire, attendez là, je connais une série de bonnes blagues sur les Belges. Je vais vous la mettre. Vous allez voir, ça va vous plaire. Non. Je suis plus à l'écoute des autres. Je suis plus preneur de l'énergie. Voilà.
D'accord.
Mais en tant qu'écrivain, on est un peu comme des aspirateurs. C'est-à-dire, on prend tout le monde qui est autour de nous. Mais l'émission se fait à travers nos livres. Donc, on reçoit le monde et on le met dans les livres. Donc, dans les soirées, je suis pas là en train de prendre la parole. Je suis pas charismatique. Et puis, je crois que je ne suis pas très doué pour faire rire des blagues, en tout cas.
Tout d'un coup, l'éclair de lucidité. Et je crois que c'est surtout pas mon truc.
Non,
je ne suis pas drôle.
Les blagues. L'horreur, c'est quand on dit, Bernard, vas-y, raconte-nous-en une bien bonne. Alors là, je dis non, comptez pas sur moi. Parce qu'en plus, je mets une tension. Je me dis, si j'y arrive pas, je vais être un gros nul.
Julia, tu peux noter, rayer ma dernière question. Vous, c'est ça. Raconter une bonne blague. Alors là, on voyait que Elise Moon était un artiste, en effet, qui vous séduisait. Il y a aussi aussi une grande mode en ce moment et surtout à la télévision, la mode des snipers. Oui. C'est un humour qui vous fait rire, ça ?
Alors, je crois qu'il y a une limite, mais c'est pour moi, hein, c'est quand ça attaque la personne elle-même dans son essence, c'est-à-dire se moquer d'une personne juste sur ce qu'elle a de personnel, ça me semble un peu bas. Ou alors quand on le fait, il faut être prêt à l'entendre soi-même. Alors j'ai remarqué que beaucoup de snipers ne supportaient pas qu'on se moque d'eux. Voilà, c'est la petite règle que j'ai envie d'établir. C'est ok, on détruit les autres, mais il faut accepter d'être détruit soi-même, sinon on monte pas sur le ring.
Qu'est-ce que vous appelez la dictature de la vanne ?
Alors d'abord, cette mode, elle a presque été lancée par Ronald Reagan, le premier président acteur, ce qui montre bien qu'à un moment on a basculé dans autre chose. Il se faisait payer des gagman qui lui sortaient des gags pour démarrer et terminer ses discours. Et progressivement dans le monde entier, on a vu tous les politiciens se mettre à utiliser cette technique. Et maintenant, on n'a pas un seul discours sans que ça démarre par une blague, par un truc. Et je crois que chacun doit rester un peu à sa place. Les politiciens doivent faire de la politique, et les gagman doivent faire des gags. Et cette manière d'embobiner les gens en disant « Attendez, vous avez rigolé, donc vous êtes forcément avec moi », c'est une manière de
c'est qu'aujourd'hui c'est un passage piéger. Obligé, faire une vanne, avoir le bon mot, on est complètement ringue, oui. Si on fait pas ça.
Oui. Et il y a d'ailleurs, c'était dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, l'obligation de rigoler en permanence, de sourire en permanence. Et le personnage à un moment, il dit, mais attends, j'ai envie de m'autoriser à tirer la gueule. Il dit, non, ça s'interdit, il y a des petites pilules euphorisantes, il faut tout le temps rigoler, il faut tout le temps avoir l'air heureux. Oui, ça m'a l'air un travers de l'époque. C'est-à-dire, il faut installer des moments où on rit franchement, mais il faut pas tout le temps rigoler. Vous savez, vous avez aussi cette mode qui apparaît maintenant, des gens qui rigolent tout le temps de n'importe quoi. Et ça devient agaçant. Attendez qu'il y ait une blague pour rigoler.
C'est vrai, parce que du coup, je suis en train
vous
de me serrer. Bah moi, là, à l'instant précis, parce que du coup, je suis en train de me pincer les mâchoires. Ne rigole pas, parce que c'est pas drôle. Ne
sois crédible.
On sourit, en effet.
Dans mes deux héros, donc Isidore et Lucrèce, il y a Lucrèce qui adore les blagues, et Isidore qui dit...
Qui est complètement rabat-joie.
Voilà, qui dit l'humour, ok, mais l'humour de qualité, si c'est pour boire de la vinasse, ça sert à rien, rire à tout prix pour avoir l'air détendu, faire acte de socialisation, c'est un peu couillon. Il y a un moment, il faut rire pour les trucs de qualité. Il dit c'est comme le bon vin, donc quittons la vinasse et allons vers le Bordeaux de la bonne année et rions des choses de qualité, oui.
Alors on va s'arrêter une petite minute et on va se retrouver avec des auditeurs de qualité qui ont très envie, en tout cas, de vous témoigner leur affection ou en tout cas aussi de vous poser des questions. Puis on va revenir sur votre recette du bonheur. À vous, Bernard Werber. D'abord, on écoute un petit peu de musique sur.
Jusqu'à 15h30.
Et si c'était ça le bonheur?
Bernard Werber est toujours mon invité pour une spéciale grande recette du bonheur. Vous êtes nombreux à vous manifester, notamment sur Internet. Sophie qui nous dit une citation de Bernard Werber qui m'avait beaucoup marqué était « L'amour pour épée, l'humour pour bouclier ». Elle ne m'a jamais quitté car il est vrai que comme il le rappelait, l'humour peut également être une défense. J'avoue que je rigole énormément et encore plus dans les moments de stress où le rire est nécessaire pour me permettre d'affronter les petites ou grandes épreuves qui m'attendent. Un grand merci à lui pour ses nombreux livres. Pour moi, Bernard Werber, c'est un sage qu'on va chercher dans sa bibliothèque quand on est en manque de repères. Vous aimez être comparé à un sage ?
Je sais pas. Au moment où j'écris mes livres, j'essaie de faire le meilleur livre possible. Après, comment les gens le perçoivent, c'est parce qu'ils sont prêts à le recevoir comme ça. Probablement que cette lectrice avait la capacité de, à partir de cette phrase, de la faire vivre pour la réconforter.
Tout comme cette autre auditrice et lectrice, Myriam, qui nous dit « J'ai découvert Bernard Werber sur le tard en l'an 2000, alors que je veillais mon grand-père à l'hôpital. Il allait entamer son dernier voyage et j'ai acheté les Thanatonautes, j'ai toujours du mal à le prononcer. Une révélation, je l'ai lu en boucle et ce livre m'a aidé et certainement fait économiser le prix d'un psy pour surmonter l'épreuve de la perte de mon grand-père. Je m'en suis tellement nourrie que j'en lisais des passages à ma grand-mère pour l'aider. J'ai enchaîné avec tous les livres de Bernard Werber et je suis devenue une inconditionnelle. »
Ça me fait plaisir parce que ce livre qui, à l'époque, a été complètement méprisé et inconnu, s'est mis à vivre aussi sur le tard. Et maintenant, je vois, beaucoup de gens me racontent des histoires comme ça, c'est-à-dire que ils ont pu... supporter la peur de la mort et supporter la perte d'un être cher grâce à ce livre. C'est, vous savez, un livre, c'est fait pour rendre les gens heureux, comme une blague, c'est fait pour créer ce sourire qu'il y a au final. Et quand j'écris, je me dis, il faut que je les amène pour qu'au moment où ils tournent la dernière page, qu'ils aient un sourire. On en est juste là, mais c'est déjà une noble ambition, me semble, pour ce petit artisanat qui est l'artisanat d'écrivain.
Alors, une autre histoire, justement, à propos des Thanatonautes. Adrien est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 30 ans, Adrien.
Oui, tout à fait, oui.
Et Bernard vous écoute. Je crois que vous avez justement le même type d'histoire à lui raconter. Très, très bouleversante aussi.
Ouais, ça rejoint apparemment le mail que vous avez reçu. Moi, c'est les Thanatonautes qui, effectivement, m'a permis de passer un gros cap, un gros coup dur. Et voilà, je sais qu'à partir de ce bouquin-là, ça, j'ai bien adhéré. En fait,
vous pouvez nous raconter, Adrien ?
Ah bah c'était pendant le tsunami en fait que j'ai vécu et voilà j'ai vécu des choses assez difficiles et vu des choses assez difficiles et c'est le bouquin que je lisais là-bas en fait. Et la dernière image que j'ai de ce livre, il était sur un ramassis de débris quand je me suis retrouvé après le tsunami, donc après la vague. Et c'est vraiment l'image que j'ai de ce bouquin, et ce bouquin je l'ai relu je sais pas une dizaine de fois. Et il m'a vraiment fait du bien, m'a vraiment permis de surmonter
la perte d'être cher là-bas. Hein.
Pardon ?
La perte d'être cher là-bas.
Oui, la perte de beaucoup de monde, toute façon. Enfin, c'est surtout, humainement parlant, parce que c'était vraiment des images difficiles à vivre en fait.
Je dois vous avouer que j'ai écrit ce livre pour vaincre ma propre peur de la mort. Je me suis dit qu'on parle tout le temps de la mort, soit d'une manière où on doit en avoir peur, soit d'une manière où on doit rentrer dans la croyance. Je me suis dit, trouvant une troisième voie qui soit juste l'imaginaire et inventer une sorte de continent des morts ou un paradis qui soit un lieu où on apprend, où on évolue et où on découvre des choses extraordinaires. Et cette idée-là, au moment où le livre est sorti, ça devait être en 93, personne n'était prêt à parler de la mort d'une manière laïque. Et je crois que je suis arrivé à faire une sorte de consensus d'ignorance sur ce livre, c'est-à-dire personne n'en a parlé, et c'est bien plus tard le bouche à oreille qui s'est mis à le faire émerger, souvent sous forme de livre de poche. Et là, je me suis aperçu que tous les lecteurs me disaient « Ah, mais ce livre a changé ma vie ». Je crois qu'il y a un temps où on envoie un message, il y a un temps où il est compris et autant où il est digéré. Et c'est pour ça que j'écris parfois des livres trop tôt, avant qu'il soit perçu et reçu par le public.
J'allais vous poser une question, mais on est un petit peu en retard. Donc je vais embrasser Adrien, on va laisser la place aux infos et on va se retrouver plus tranquillement d'ici 5 minutes à peu près. À tout de suite, et on va se retrouver avec les infos et Bernard Werber après.
Europe 1, 14h30, 15h30. Et si c'était ça le bonheur, Faustine
et
Bollard.
Bernard Werber est toujours avec nous pour une spéciale grande recette du bonheur. Et alors, vous savez, souvent dans cette émission, on demande aux gens ce qu'ils écoutent, quelle est la musique qui les rend heureux. Et alors, vous êtes la seule personne que je connaisse que cette musique ne déprime pas. Parce que moi, cette musique, je la trouve superbe, mais elle me fout quand même un peu, elle me met un peu le bourdon, pardon.
Ah non, pour moi, ça veut dire qu'il faut voyager. J'avais écrit un livre qui s'appelait Le Papillon des Étoiles, dans lequel j'imaginais que l'humanité quittait la Terre pour aller construire autre chose ailleurs. Et quand j'entends là-bas, il faut y aller. Pour moi, ça me fait penser à ce livre, c'est-à-dire le côté voile, voyage.
C'est quand même une séparation, un déchirement. Peut-être pas faire une analyse de Jean-Jacques Goldman, mais quand même.
Non, c'est quitter le monde ancien qui tourne en rond pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus moderne, dans lequel on peut recommencer tout à zéro. Et je crois que c'est ça, la modernité, l'intelligence. Ce que je disais tout à l'heure, que souvent les gens, ils sont malheureux dans leur vie parce qu'ils tournent en rond, ils répètent des choses qui les satisfont pas, et que finalement la dépression est une manière pour eux de leur signaler bougez, faites quelque chose. Mais cette chanson, voilà, elle dit ça. Bougez, ne vous contentez pas de votre vie de routine, prenez des risques. Prenez le risque de tout abandonner et d'aller reconstruire ailleurs en partant de zéro. Ça m'est arrivé souvent de le faire. Je me suis souvent effondré, j'ai redémarré à zéro. Et chaque fois, je m'en suis retrouvé grandi. Cette chanson me...
Ça veut dire quoi, redémarrer à zéro dans votre cas ?
Quand j'étais journaliste, quand même, je me suis retrouvé viré au chômage, en fin de droit, avec un bolino tous les soirs. Ça fait partie du job. J'ai cherché pendant 6 ans un éditeur sans en trouver. Par exemple, pour parler des Thanatonautes, c'était un échec global. Je voulais arrêter d'écrire. Il y a un moment où vous pouvez pas tout le temps avoir que du bon dans la vie. Vous prenez des grandes baffes. Ça fait partie du jeu. Il y a l'hiver dans les saisons. On peut pas tout le temps avoir du beau temps. Et voilà, là-bas, ça me dit reprends-toi et reconstruis ailleurs si ça marche pas.
Qu'est-ce que vous faites
justement quand vous avez un coup de blues pour rebondir?
Alors c'est malheureux, je vais vous décevoir, mais je me mets à écrire. Mais je me mets à écrire avec des personnages qui ont le même problème que moi et qui le résolvent. C'est-à-dire j'utilise l'écriture pour résoudre de manière virtuelle mes problèmes. D'ailleurs,
donc il y a plein de trucs qu'on lira jamais et vous avez des tonnes d'écrits chez vous.
Ah non, mais même si on lit Le Rire du Cyclope, il y a dedans tous mes problèmes et tout ce que j'ai résolu durant l'année où j'ai écrit ce livre. Et je me suis retrouvé à gérer des situations plus ou moins sympathiques, mais j'ai utilisé l'humour, je me suis comporté comme mes personnages et mon comportement a nourri mes personnages. Mais vous savez, il y a un moment, les personnages, c'est comme des petits-enfants, c'est peut-être une déformation professionnelle, et ils vous soutiennent et ils vous donnent envie de continuer aussi. Et donc, vous les nourrissez et eux, ils vous nourrissent. D'ailleurs, je crois que c'est le rapport que doivent avoir des parents avec leurs enfants, c'est-à-dire recevoir d'eux aussi une éducation. Je crois que nos enfants nous éduquent et nos créations nous éduquent.
Alors, on a Fanny qui nous écrit « J'avais entendu dire que les Thanatonautes seraient adaptés sous forme de série télé, format 52 minutes. Est-ce que c'est une rumeur ?»
Ça fait partie des 10 000 projets qu'il y a autour de mon travail. Il y en a vraiment beaucoup. Et la plupart sont arrêtés parce qu'en France, on n'a pas une tradition, du fantastique, des effets spéciaux, des choses visuellement fortes. Et chaque fois, ils se disent « Oh là là, ça va coûter cher ». Donc, il y a plein de chaînes qui sont approchées, qui sont dit « On aimerait bien faire un projet aussi ambitieux que les Thanatonautes ». Puis, au dernier moment, ils se déballonnent et puis ils font une série toute simple, sans effets spéciaux et normal.
Toujours sur les Thanatonautes, parce que même si ça a été un échec à l'époque, en tout cas, pour l'instant, on nous en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Cécile nous dit un message de remerciement à l'auteur des Thanatonautes. À ce jour, mon livre préféré, j'ai 16 ans et ce roman m'a été transmis il y a 2 ans par mon grand frère. Pour ce que ça vaut, j'aime écrire moi-même et je suis très sensible à vos mots. Vous êtes en quelque sorte l'auteur de mon bouclier du quotidien, de cette phrase extraite des Thanatonautes que je me répète inlassablement devant les obstacles de ma vie. La peur n'existe que si tu lui permets d'exister. Elle a 16 ans, oui. Cette lectrice. Ça vous touche en effet quand des plus jeunes lecteurs vous disent que...
Énormément.
Vous les soutenez comme ça, dans des moments difficiles, comme l'adolescence notamment.
Oui, parce que je crois que la lecture des jeunes est un combat abandonné par le système littéraire français. Quand je suis arrivé dans le monde littéraire en 91, il n'y avait que des vieux auteurs, et je demandais à mon éditeur comment ça se fait qu'ils ont tous entre 70 et 80 ans en moyenne. Ils m'ont dit, parce qu'il n'y a que des vieux lecteurs, les jeunes, soit ils regardent la télévision, soit ils sont sur Internet. Je dis, mais moi je suis jeune, et je ne suis pas sur Internet et à la télévision, je lis des livres, et je prends mes plus grands plaisirs à lire des livres. Et j'ai dit, je suis sûr qu'il existe des jeunes qui lisent. Et s'il n'y en a pas, on va augmenter le nombre de jeunes qui vont lire. Et j'ai construit mon œuvre à côté du système littéraire parisien, et du coup j'ai touché les jeunes qui, eux, ne sont pas dans ce trip-là, ils ne sont pas dans les bouquins nombrilistes, eux ils aiment les histoires, ils aiment rêver, ils aiment l'évasion, et c'est un public maintenant qui est, en plus, qui a reçu le soutien des professeurs de français. Ça c'est tout récent, les profs français sont aperçus que ça, mes livres donnaient le goût de la lecture à ceux qui étaient un peu rebelles, et donc je suis prescrit au programme notamment des classes de 4e et de 3e. C'est ma plus grande fierté, c'est-à-dire l'objectif de tout écrivain me semble d'augmenter le nombre des lecteurs dans l'absolu, qu'il y ait de plus en plus de gens qui lisent, et non pas de les envoyer vers des livres élitistes dont on ne comprend rien, qui vont les dégoûter des livres. Le livre doit être un plaisir.
On va prendre justement un jeune lecteur en ligne. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci Julien, vous avez 24 ans, merci d'être avec nous.
Oui.
Et vous-même, vous lisez activement Bernard Werber, l'œuvre de Bernard Werber?
Ouais, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais le remercier déjà parce que c'est quelque part grâce à lui que j'ai repris goût à la lecture. Parce que, comme vous venez de le dire avant, en fait, j'étais plutôt télé, internet et tout le reste. Donc, grâce au livre, principalement aussi des Thanatonautes, dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, je suis revenu à la lecture et depuis, en fait, je me passionne un peu pour ces livres. Alors par contre, j'ai lu la série des Thanatonautes avec la série des Dieux. Et j'avais une petite question justement à ce sujet, sur la fin en fait de la série des Dieux.
Oui.
Je sens que ça va être précis.
Oui, mais vous n'êtes pas le premier. Allez-y.
Oui, voilà, parce que bon, moi, donc on lit ça, je vais presque dire en famille, parce que moi c'est ma mère qui m'a conseillé vos bouquins, donc en fait on se les fait tourner, ma mère me les prête, moi je lui prête ceux qu'elle n'a pas, et ainsi de suite. Et en fait, on a tous les deux eu le même ressenti en fait sur la fin de cette trilogie. On est resté un peu sur notre fin. Bon, ce qui nous empêche pas de continuer à vous lire, mais
ah, mais J'ai une réponse très simple. Vu que les Thanatonautes et la série des dieux parlaient de spiritualité, je ne voulais surtout pas me prendre au sérieux, je voulais surtout pas créer une sorte de mystique autour du livre, donc j'étais obligé de terminer par une sorte de grande blague. Et je crois que l'univers, de toute façon, va vers l'humour. Je crois que si on a un dieu, c'est un dieu d'humour. Et je voulais montrer, attendez, si même si on va très loin, j'ai construit un monde un peu à la Seigneur des Anneaux ou à la Dune, il n'a pas d'autre ambition que de vous égayer, de vous faire plaisir, et je ne veux pas créer une nouvelle religion, je ne veux pas vous inventer un nouveau système de réincarnation et tout. Je veux laisser chacun, je veux laisser mettre un miroir, je veux laisser chacun à sa propre spiritualité sans leur dire, regardez, le système que je propose dans les Thanatonautes et dans les dieux est un système qui est peut-être le vrai système. Voilà. Donc j'étais obligé de faire cette petite blague, cette petite entourloupe. Excusez-moi-en, mais il n'y avait pas le choix. J'avais pas le choix. Et je peux vous dire que ça a posé des problèmes techniques à l'imprimerie gigantesques, parce que mon éditeur m'a dit, attends, tu veux vraiment mettre ça à la fin?